Bonsoir à tous. Bonsoir, Christiane Rancé.
Bonsoir et puis merci d'être venu pour m'écouter parler de notre belle Thérèse.
Oui, c'est ce qu'on va faire pendant à peu près trois quarts d'heure. On va vous laisser aussi un petit quart d'heure pour poser des questions. Je suis sûr que vous en aurez. Et puis on laissera encore un petit quart d'heure pour ceux et celles qui veulent venir voir Christiane Rancé à la fin de la conférence pour poursuivre un petit peu le débat. Christiane Rancé, donc vous êtes écrivain, journaliste. Vous n'en êtes pas à votre première biographie, vous en avez déjà écrit plusieurs avant celle-là. On peut citer une biographie sur Léon Tolstoï, une sur Simone Veil, également une sur Jésus. Vous avez également publié un essai il y a quelques années, Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase, qui a eu d'ailleurs quelques prix, prix oui. De la spiritualité, Panorama, je crois.
Et des écrivains croyants.
Voilà. Ouais. Et ce soir, donc, vous venez nous présenter un livre sur Thérèse d'Avila. Un très beau livre, je dois le dire, comme souvent chez vous, écrit avec une très belle plume. On sent que c'est très bien documenté, vous maîtrisez parfaitement le sujet, donc ça se lit avec énormément de plaisir. Thérèse d'Avila, on en parle beaucoup en ce moment puisqu'on fête le 500e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1515, c'est une date assez facile à se remémorer. C'est une femme de son siècle, une femme du siècle d'or espagnol. C'est un tempérament qu'on découvre au fil des pages, qu'on n'est pas censé connaître chez cette femme, qui est immortalisée à travers quelques clichés, soit effectivement la sainte qui prie dans son oratoire, ou au contraire l'extatique, la sensuelle, immortalisée par le Bernin, entre autres. Entre ces deux images de Thérèse d'Avila, on a parfois du mal à en savoir plus, à en comprendre plus. Et à travers votre livre, on comprend bien. On comprend bien, effectivement, son parcours biographique, ses tensions intérieures, et puis aussi toute la force de sa spiritualité. Alors, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser en parler. On va, je pense, dérouler un petit peu son parcours biographique. On va évoquer quelques thèmes aussi importants. J'ai énormément de questions à vous poser, donc je ne sais pas vraiment par laquelle je vais commencer. Peut-être par une question toute bête. Pourquoi avez-vous eu envie? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé dans l'écriture de ce livre, qu'est-ce qui a pu faire écho chez vous dans la vie ou dans la spiritualité de Thérèse d'Avila?
Alors, tout d'abord, une petite parenthèse. Je voulais vous dire, c'est très ému d'être là aujourd'hui en souvenir de mon grand maître Lucien Gerfagnon, avec qui j'ai écrit un livre d'entretien et qui, quelques mois avant de mourir, a eu le rêve, et d'ailleurs il est venu, c'est là qu'il est tombé très malade, il a été hospitalisé, de revoir son beau Bordeaux, dont il me parlait toujours avec des trémolos dans la voix et avec vraiment une émotion immense. Donc je pense à lui en ce moment. Et je suis très émue pour ça. Alors Thérèse, pourquoi est-ce que j'ai écrit sur Thérèse? D'abord parce que c'est une femme d'avant-garde, Thérèse. Et comme j'aime la le dire, voilà une femme dont on manque aujourd'hui et qui pourrait être un modèle pour nous, hommes et femmes, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en travaillant autour de l'Espagne, qui est un pays que j'aime particulièrement, dont j'aime particulièrement l'histoire, j'ai découvert que cette haute mystique que j'avais déjà rencontrée en écrivant mon livre sur l'extase, sur la prière, cette méditation sur la prière, avait été confrontée un peu aux mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Alors ça paraît un peu paradoxal de dire une chose pareille, c'est pourtant la réalité. Ces problèmes, quels étaient-ils ? Le premier des problèmes, ça a été d'abord cette fin, c'est une très grande angoisse métaphysique qui résultait de la fin d'un monde qui était celui du Moyen-Âge. Vous savez que le siècle d'or est le premier siècle moderne, considéré de l'époque moderne. Pourquoi cette rupture dans l'histoire? Eh bien parce que la science avait découvert qu'il y avait eu la révolution copernicienne, que Dieu n'était plus, ne résidait plus sur cette terre qui elle-même était le centre de l'univers et que tout ne tournait pas, tout n'était pas éternel et tournant autour de cette terre. Donc il y a eu une véritable angoisse métaphysique à cause de cette découverte. Et Kepler, quelques années plus tard, vous savez que c'est le grand savant Kepler, au début du XVIIe siècle, dira, déjà à son époque, on ne se figure pas l'angoisse métaphysique que cette découverte avait pu provoquer dans les esprits. Que se passe-t-il effectivement ? Eh bien, on assiste à cause de cette découverte, à cause de la déliquescence des mœurs du Vatican. Vous savez qu'on n'est pas loin des Borgia. François de Borgia, qui était le grand saint espagnol, était le petit-fils du pape bien connu, dont on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup de séries et de biographies aujourd'hui. Et ces grands saints sont là pour demander une réforme des mœurs des mœurs de l'Église catholique. Vous voyez ce que fait le pape François aujourd'hui, qui est confronté au même problème de la curie. Il y a exactement comme aujourd'hui un intérêt très porté sur l'or et sur l'afflux d'or, c'est-à-dire les Amériques viennent d'être découvertes, et à Séville débarquent des flots d'or qui font que les gens cessent de travailler, ferment leurs manufactures, ferment les mines pour placer l'argent, et on assiste pour la première fois dans ce siècle, enfin dans l'histoire même de l'Europe et du monde, à une inflation, à ce qu'on a appelé, nous, une bulle financière. Et les gens ne s'intéressent plus qu'à une chose, aux apparences, à la richesse, à être couverts d'or et d'argent. Et Thérèse elle-même naît dans cette société où le paraître est le plus important, où on est déshonoré si on n'est pas plus riche que son père, et où, comme elle l'écrira, on ne parle plus à son père parce qu'il est pauvre et démuni. Et donc voilà cette petite jeune fille qui naît dans cette société au moment où, en plus, comme je vous l'ai dit, à cause de ses angoisses métaphysiques, à cause de cette déliquescence des mœurs de l'Église, vous savez que c'est la pratique de ce qu'on appelle la simonie, la pratique des indulgences. Il faut reconstruire la basilique Saint-Pierre à Rome, et la papauté vend des indulgences pour essayer de trouver de l'argent. Ça a créé ces protestations d'un certain Luther. Donc nous avons aussi ce mouvement religieux qui s'appelle la Réforme et qui ensanglante toute l'Europe. Donc on est vraiment dans une époque avec des guerres de religion, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose aujourd'hui. Une bulle financière énorme, ça vous rappelle, je pense, aussi quelque chose aujourd'hui. Un grand chômage, un intérêt presque névrotique porté à l'or et à l'argent et au paraître. Et il y a aussi cette expansion territoriale, cette mondialisation qu'elle voit débarquer en Espagne avec la découverte des Amériques, un peu la découverte du Japon de l'autre côté, et ces nouvelles populations qui arrivent, dont on ne sait pas si elles ont une âme, dont on ne sait pas si ce sont des hommes ou pas, et qui vont donner cette fameuse controverse de Valladolid. Et voilà notre petite Thérèse d'Avila, qui naît donc à Avila, puisque c'est le nom qu'on va lui donner après, bien évidemment, qui s'appelle à l'époque Thérèse de Ahumada y Cepeda, du nom de ses parents, qui naît dans une petite famille de Hidalgo, de petite noblesse, mais avec, c'est élevé dans ce qu'on appelle ce punt d'honneur, et élevé dans ce catholicisme exaspéré, incandescent, que connaît l'Espagne, mais que connaît l'Espagne depuis longtemps, puisque c'est sur la religion catholique qu'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, donc les rois catholiques, ont achevé cette reconquista avec une figure tutélaire qui est Jacques Matamor, Jacques, Saint-Jacques, le tueur de mort. Donc il y a cette espèce d'idée d'une construction nationale extraordinaire qui se fait au travers de la religion. Cette idée se fait aussi d'autant plus que l'Espagne est devenue la tête d'un empire avec Charles Quint. C'est le pays le plus riche, le plus prestigieux et, on va dire, et le plus christophore, et qui désire effectivement être celui qui porte le Christ jusqu'aux Indes, jusqu'aux Amériques. Et Thérèse est prise dans cette espèce d'effervescence, dans cet aigle magnifique qui surgit de cette chrysalide qu'était l'Espagne, et elle est prise avec les mêmes attentes et ce même désir conquérant. Elle a été élevée avec autre chose qui est le point commun de tous les Espagnols de son époque, ce sont les romans de chevalerie. Il faut savoir que même Ignace de Loyola, tout le monde dévore les romans de chevalerie à cette époque. Nous regardons des séries des séries, des feuilletons. Eux, c'était les romans de chevalerie qui avaient tellement d'importance, vous le savez, que Cervantes, un peu plus tard, qui lui-même en a mangé beaucoup, Cervantes va écrire donc Don Quichotte, qui va être une espèce de pastiche de ces chevaliers qu'on nous présente, avec ces jeunes femmes qui sont enlevées, et tout le monde rêve de ces romans de chevalerie, de conquêtes merveilleuses, et Thérèse fait partie de cette génération qui lit. C'est une des premières générations de femmes qui lit en Espagne, car les petites filles n'avaient pas le droit de lire. Il faut savoir que les garçons apprenaient à lire. Et donc Thérèse, qui était la troisième d'une fratrie de 9 enfants, va apprendre à lire par-dessus l'épaule de ses frères. Et elle peut lire pour une autre chose, c'est que Isabelle de Castille vient d'autoriser la traduction du latin en castillan des ouvrages principaux des grandes bibliothèques. Et c'est très important parce que sans Isabelle de Castille, Thérèse n'aurait pas eu ce premier contact qui va être sa première révélation avec les livres et avec un livre très particulier qui s'appelle « Le troisième abécédaire » de Francisco de Osuna. Et ce livre, alors qu'elle a une jeunesse, on va dire une adolescente, elle est orpheline de mère, elle perd sa mère à 13 ans, mais elle est très jolie, elle a beaucoup de frères, beaucoup de cousins, une petite cousine très délurée, un père assez frappée par la disparition de sa femme, et Thérèse ravissante qui, en plus d'être jolie, a un atout extraordinaire. Elle a un charme fou. Personne ne lui résiste. Elle est la préférée de son père, mais elle est aussi préférée des jeunes garçons, des jeunes chevaliers d'Avila. Et dans sa jeunesse, elle sort beaucoup, elle fait la fête, et elle fait la fête au point que sa réputation risque d'en être ternie. Donc je vous ai dit l'honneur, le point d'honneur névrotique de cette époque. Donc son père décide de la mettre un petit peu à l'abri et en attendant que les choses se calment, et il l'envoie au couvent des Augustines. Le couvent des Augustines, est-ce que ça aurait été son choix ? De toute évidence, non. Dans les premiers temps, quand elle est pensionnaire dans ce couvent, ses copains, parce qu'elle faisait un petit peu le mur, ses copains viennent un petit peu rôdent autour du couvent, essaient de lui communiquer des messages, elle avait un amoureux, et puis tout d'un coup, très étonnamment, comme elle l'écrit dans le livre de la vie qui va être son autobiographie, elle découvre qu'elle est heureuse là. Elle est heureuse dans cette clôture. Elle est heureuse sans doute parce qu'elle ne ment plus. Et ça devait beaucoup la travailler d'avoir à mentir à son père, d'avoir à avoir ce double visage et d'avoir cette inquiétude du mensonge et d'une vie qui n'était pas exactement ce qu'on attendait d'elle et surtout ce qu'on attendait des femmes, puisque les femmes à cette époque avaient une possibilité, c'était de se marier et de faire des enfants. Et il y avait un proverbe castillan qui disait qu'un castillan fondait une famille dans laquelle il y enferme sa femme. C'est dire la conception qu'on avait du féminisme, ou de prendre le voile. Donc Thérèse a 18 ans, elle est dans ce pensionnat. Elle découvre une amie extrêmement croyante qui s'appelle Maria de Briceño, qui a, elle, la vocation, et qui commence à lui parler d'un autre rendez-vous amoureux, qui est le rendez-vous qu'elle connaît, elle. Maria de Briceño a eu un rendez-vous amoureux avec Jésus, et elle en parle merveilleusement bien à Thérèse d'Avila. Et non seulement elle en parle très bien à Thérèse, mais en plus, elle lui donne des livres. Et Thérèse a autre chose que la joliesse et le charme. Elle a une intelligence extrêmement aiguë, elle a énormément d'esprit, et elle s'engouffre dans ses livres avec un plaisir absolument fou. Et elle va prendre la décision, plutôt que de se marier, elle va prendre la décision de rentrer dans un couvent. Elle ne va pas vouloir rentrer chez les Augustines, tout simplement parce que la règle est très sévère. Elle a une amie qui, elle, est rentrée au monastère de l'Incarnation, où il y a énormément de jeunes femmes, il y a énormément de jeunes moniales, et où la règle est ce qu'on appelle, qui est un carmel, mais qui a ce qu'on appelle une règle mitigée, c'est-à-dire qu'on en sort, la clôture n'est pas absolue, les dames y entrent sans renoncer à leur titre de noblesse, avec leurs domestiques, on y tient salon au parloir, et le reste du temps, on lit et on va en la chapelle pour prier. Et cette version du cloître plaît beaucoup à Thérèse, qui n'a pas la vocation, l'avoue dans son livre, et commence à dire « Je ne croyais pas en Dieu, je ne pensais pas... » j'ai dit une énorme bêtise. Elle croyait en Dieu, bien sûr, mais elle ne croyait pas en sa vocation. Elle ne pensait pas qu'elle était faite pour les ordres, mais elle avait dit « J'ai donné ma parole à cette Maria de Brécegno et elle avait décidé de se faire violence pour y arriver, et c'est ce qu'elle va faire. »
Parce que, est-ce que Thérèse a une enfance très catholique ? Est-ce qu'elle baigne vraiment dans la foi ? Parce qu'effectivement, on se rend compte que quand elle se dirige vers le couvent, quand elle décide d'y aller, comme vous dites, elle a la foi, mais elle n'a pas la vocation. Vous dites la foi en acte, elle ne l'a pas, ça. Et il va y avoir quand même une espèce de combat intérieur qui va durer un certain temps chez elle. Donc, c'est pas quelqu'un qui, adolescente, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une foi qui lui vient depuis toujours, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle va chercher du plus profond d'elle-même ? Elle a un rapport un petit peu ambigu avec la vocation, avec la foi.
Alors, elle n'a pas la vocation, ça c'est certain, elle l'avoue elle-même. Mais Thérèse a une particularité extraordinaire, elle ne doute jamais de Dieu. Elle doute d'elle-même. Elle ne doute pas de Dieu. Et ça, c'est sa grande force. Alors, elle a la foi, pourquoi ? Mais parce que, comme on l'a dit, toute l'Espagne avait la foi. On baignait dans cette atmosphère. Il y avait en plus, on va dire, une culture du paradis et de l'enfer. On croyait en tout. On croyait en Dieu, on croyait en Jésus. On croyait dans le châtiment éternel et au paradis. Et quand elle avait 8 ans, Thérèse déjà était partie avec son frère. Elle était partie pour faire avec le désir de quitter Avila, d'aller rencontrer les armées des morts qui avaient quitté l'Espagne depuis longtemps, en pensant qu'elle allait crier « Vive Jésus !» et qu'elle allait pouvoir mourir en martyr. C'est pas qu'elle voulait vraiment mourir en martyr, c'est pas la foi en Jésus qui l'a poussée. C'était, comme elle se savait coquine et assez pécheresse, déjà, elle faisait beaucoup de bêtises, c'était l'idée qu'elle allait pouvoir aller en enfer. Et cette idée, au départ, va tarauder Thérèse. Elle est absolument, elle croit en Dieu, et elle est absolument travaillée par l'idée de l'éternité pour se para siempre, comme elle dit toujours, ce sera pour toujours, je serai maudite et ce sera pour toujours. Ça revient très souvent dans ses propos, et donc elle a très peur d'avoir perdu son âme et de perdre son âme. Et pendant les 20 premières années, effectivement, de son entrée dans les ordres, elle va prier, mais elle ne va pas rencontrer Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rencontrer Dieu ? Simplement parce qu'elle ne prie pas assez et qu'elle continue ses mondanités. Car elle est rentrée au monastère, elle se conduit bien, sauf que tous les après-midi, comme beaucoup de moniales, elle rencontre tout Avila qui vient faire salon, tenir salon et raconter ce qui se passe dans le monde. Elle est intelligente, ça la passionne. Ses frères eux-mêmes sont partis pour l'Amérique, on appelait ça à l'époque les Indes, pour faire des conquêtes. Elle s'intéresse aux guerres de religion, elle s'intéresse aux guerres de l'Espagne avec la France, à ce qui se passe en Amérique, elle s'intéresse aux mouvements religieux, à la progression de ce mouvement protestant. Et donc, elle parle beaucoup, et en parlant, eh bien, elle rencontre encore un chevalier qui n'est pas, évidemment, il ne se passe absolument rien entre eux, chacun reste du côté de sa grille, mais elle lit avec lui une amitié, ce qu'on pourrait appeler un amour platonique. Et elle dira elle-même, quand elle va enfin avoir cette révélation, et je vais vous dire comment elle l'a, elle va avouer elle-même que rompre avec cet homme qu'elle va voir tous les après-midi, tous les jours, avec qui elle va parler, avec qui elle éprouve une immense amitié intellectuelle et sans doute un attachement un peu plus profond, mais qui ne se matérialise absolument pas autrement que par la parole, elle va avoir énormément de mal à rompre avec lui. Et il faudra qu'elle entende Jésus lui dire « Maintenant, je te demande de ne plus parler aux hommes, mais de ne plus parler qu'avec les anges » pour qu'elle comprenne qu'effectivement, elle ne peut plus avoir de conversion totale qu'en se donnant entièrement à Jésus, en abandonnant aussi toutes ses mondanités, ce qu'elle va faire.
Et il y a aussi un moment assez douloureux quand elle a entre 20 ans et 23 ans, je crois, où elle tombe gravement malade. C'est déjà une première étape aussi dans son parcours spirituel. Elle va être paralysée, elle va tomber dans le coma, y rester pendant assez longtemps. Et elle ressortira de cet état-là renforcée et un peu plus déterminée aussi que ce qu'elle était au début dans sa volonté de trouver Dieu.
Oui, enfin, elle a été déterminée une semaine, hein. Dès qu'elle s'est sentie mieux. Mais enfin, effectivement, quand elle est rentrée au couvent, je pense qu'elle a pris conscience, elle le dit d'ailleurs, que c'était effectivement pour toujours. Et là, l'absence de nourriture, parce qu'il faut quand même savoir que c'est en Espagne, il y a des disettes, hein, il y a des grandes maladies, il y a la peste est passée aussi de temps en temps. Donc, elle est enfermée et cet être qui est tout un être de joie, d'action, qui est quelqu'un qui est extrêmement ouvert aux autres, qui est entraîné toute sa famille. Son père va être très très malheureux. Il va s'opposer dans un premier temps. Elle lui tiendra tête à ce qu'elle prenne le voile parce qu'il va la perdre, parce que c'était la flamme, la chanson, la parole. C'est une flamme vive, Thérèse. Et de qu'elle quitte la maison lui coûte beaucoup. Et donc, elle se retrouve dans ce monastère. Elle commence à tomber malade. Je pense qu'elle tombe. On a pensé qu'elle avait été sans doute psychosomatiquement malade. Je crois aussi qu'elle a dû être réellement malade, puisqu'elle commence à perdre un petit peu connaissance. On a, et au point, elle tombe d'ailleurs suffisamment malade pour que son père la sorte du couvent et l'amène chez une guérisseuse dans un petit bled perdu de la Castille qui s'appelle Bécédas. Et j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'on avait pu donner à cette pauvre Thérèse pendant 6 mois oui, pour la guérir.
Vous décrivez effectivement ces traitements, c'est pas très ragoûtant.
Alors, parce qu'on se demande comment effectivement, elle y passe un temps, et je me suis dit, mais personne ne dit dans aucune biographie, ni même elle ne raconte ce qu'étaient ses soins habituels. Donc j'ai fait des recherches, je suis tombée sur des livres de médecine exactement de son siècle, de ce qu'on pratiquait en Castille à son époque. Alors j'ai donné quelques recettes, il y en a plein d'autres dans le livre, quelques poux grillés avec du jaune d'œuf, quelques excréments, d'un jeune homme en bonne santé mélangé à du miel. Je vous passe à son urine aussi. Voilà, je vous passe aussi les bains de sangsue. Vous aurez quelques descriptions. Donc, on peut comprendre aussi que notre pauvre Thérèse, qui ne devait pas être d'une constitution extrêmement forte, je rappelle que sa mère est morte, elle avait à 33 ans en mettant au monde son dernier enfant, le neuvième, qui était une petite fille. Voilà, je pense qu'elle devait être fragile et que la maladie qu'elle a eue, plus effectivement les traitements qu'elle a subis, la fond l'ont complètement débilitée. Elle est rentrée chez son père et là, elle a perdu connaissance. Elle a passé 3 jours dans le coma et sans son père, elle aurait été enterrée vive. Car à l'époque, on enterrait assez rapidement pour des questions, vous en doutez, de conservation, etc. Et donc, son père était tellement malheureux qu'elle soit morte, qu'il supplie qu'on ne l'enterre pas tout de suite. Eh bien, elle lui en a pris parce que 3 jours après, très curieusement, comme le Christ. 3 jours plus tard, Thérèse a repris conscience. Et elle a repris conscience, mais elle a repris conscience en étant paralysée des 4 membres. Et avec une volonté d'une pugnacité terrible, elle va commencer à apprendre à ramper, à marcher après, à essayer de développer ses membres. Et un jour, en priant très très fort Saint-Joseph, elle va effectivement recouvrer la santé. Elle va recouvrer la santé, elle va rentrer au couvent, déterminée à prier. Alors, elle va mettre sa foi en action, puisqu'elle va avoir une foi éblouissante en Saint-Joseph, mais je rappelle qu'elle a la foi. La foi, elle l'a. C'est simplement la volonté d'échapper à ce plaisir d'être avec les autres, de briller, de plaire, de parler qu'elle n'a pas. Donc, dans un premier temps, effectivement, elle s'astreint à soigner les gens à l'infirmerie, à aller à l'office, à suivre tous les offices, et puis elle est revenue, effectivement, au parloir, où elle a repris ses bonnes mondanités.
Et ce n'est qu'à partir de l'âge de 39 ans, je crois, que Thérèse de l'Enfant Jésus,
Thérèse de Jésus. Thérèse celle de Jésus. Qui s'appelle, effectivement. Mais tout moi, le monde.
Thérèse
tout
de
le
Jésus. Monde. C'est à 39 ans qu'elle va avoir une révélation. On peut appeler ça comme ça. Qu'elle aura.
Sa vraie conversion.
Conversion va commencer à 39 ans, ce qui est relativement tardif.
Absolument. Donc un jour où elle rentre de ce fameux parloir, où elle a discuté des choses de ce monde et de bien d'autres avec cet Hidalgo, elle tombe sur une statue de Jésus souffrant. De Jésus, alors on ne sait pas si c'est un Jésus à la colonne ou un Jésus sur la croix qui a été déposé là en attendant des processions religieuses. Et c'est cette rencontre qui va la bouleverser. Elle est frappée par la vue de cette statue, de cet homme souffrant, dégoulinant de sang. Vous savez comment les Espagnols sont capables de représenter la passion. Et elle est frappée parce que tout soudain, d'un seul coup, elle comprend tout l'amour qu'il a fallu à Dieu pour que son fils meure en croix par amour pour sa créature, pour elle qui est religieuse, qui a prononcé ses vœux, qui est effectivement l'épouse du Christ, et elle prend conscience, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour lui rendre ne serait-ce qu'une parcelle de cet amour ? Ben, elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle prie à tous les offices, mais mécaniquement, mais elle ne donne rien, elle ne l'aime pas comme il l'aime. Et est-ce qu'elle aime d'ailleurs quelqu'un autant que Jésus l'a aimé ? Elle aime son père, elle aime sa famille, elle aime ses frères, mais c'est tout. Et là, c'est une révélation extraordinaire pour elle. Elle saisit d'un seul coup ce à quoi sa vocation, sa prise de voile, mais ce à quoi aussi le fait qu'elle soit une femme, qu'elle est une âme, l'engage dans cette vie, et elle se jette par terre, et c'est extraordinaire, parce que ça, c'est tout à fait Thérèse d'Avila, avec sa joie, avec sa volonté, elle se jette par terre au pied de Marie-Madeleine, et elle supplie Jésus, c'est pas qu'elle le supplie, elle exige de Jésus qu'il lui donne la force de pouvoir lui rendre tout cet amour, et à partir de là, elle va commencer à prier, elle va commencer à prier avec une telle conviction, avec une telle force, en donnant un tel exemple. Mais en même temps, elle va continuer, elle va retourner à l'infirmerie, elle va s'occuper des autres, elle va entraîner les autres à la prière, grâce d'ailleurs à ce fameux livre du troisième abécédaire de Francisco de Osuna. Et elle va entraîner tout un groupe de jeunes religieuses autour d'elle, et elle va commencer à recevoir ses grâces, ses ravissements, ses extases, ses... jusqu'à cette transverbération dont on a parlé tout à l'heure, qui est effectivement cette sensation de voir un ange qui lui fléchait le cœur d'amour et qui va lui donner effectivement cette extase extraordinaire que le Bernin va si bien et qu'on appelle un orgasme, puisque c'est très exactement ce à quoi beaucoup de psychanalystes ont comparé cette extase en pensant à Thérèse d'Avila. Donc elle va passer un temps à prier, à avoir, on va dire, ces grâces divines, ce qu'on appelle ces charismes. Est-ce que ça va la rendre plus populaire auprès des copines ? Eh bien, je peux vous le dire tout de suite, pas du tout. Ça commence à mettre un très, très grand désordre dans ce monastère. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, ce monastère était un monastère mitigé, qu'on y rentrait en abandonnant absolument pas ses prérogatives du siècle. On y rentrait avec ses titres, on y rentrait avec ses domestiques, on y sortait souvent pour aller au bal, on en sortait pour aller au théâtre, on recevait la famille, autant dire que c'était une règle très, très, une fois très, très relâchée. Donc, tout d'un coup, d'avoir cette jeune femme qui appelait les autres avec cette espèce de phénomène d'entraînement qu'elle avait, à plus de rigueur, à plus d'assaise, à plus de prière, et qui montrait la voie, ça ne faisait pas du tout plaisir aux gens qui n'étaient pas, aux moniales qui n'étaient pas du tout disposés à renoncer à leur façon de vivre. Et petit à petit, elle va commencer à devenir, à être en but au ragot, on va commencer à dire, mais après tout, ce ne serait pas l'œuvre du diable, tout ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de simulatrices, qu'il y avait une certaine Magdalena de la Cruz qui avait fait scandale en Espagne, qui avait simulé des extases, qui avait simulé un contact très, très, très personnel avec Jésus. La reine était allée la voir, lui avait confié les vêtements de baptême de l'enfant pour qu'elle les bénisse. Et puis, on avait découvert que cette femme avait... qui d'ailleurs l'avait avoué, dénoncé par les moniales, avait conclu un pacte avec le diable et que c'était une simulatrice. Donc le bruit se répand autour de Thérèse d'Avila qu'elle est elle aussi une simulatrice et qu'elle est la proie de Satan. Il faut savoir qu'on ne plaisantait pas du tout avec Satan à l'époque, puisque c'est le grand moment de l'Inquisition. Vous savez, la rigueur avec laquelle l'Inquisition a sévi et le Saint-Office, le tribunal du Saint-Office a sévi en Espagne, Thérèse risque le bûcher à ce moment-là et elle-même s'inquiète. Et comme elle est aussi très fine et très intelligente, plutôt que d'attendre de voir les inquisiteurs venir à elle, elle va aller vers les directeurs spirituels, elle va demander à rencontrer des jésuites et des dominicains pour soumettre son cas et pour recevoir du d'une certaine façon, l'imprimature, c'est-à-dire qu'on lui dise si oui ou non elle est ce qui lui arrive est l'œuvre de Satan ou si c'est l'œuvre de Jésus. Et c'est en ça qu'elle prouve sa très grande intelligence, parce que quand elle commence à voir un père spirituel qui commence à dire « Ouh, mais ça ne me plaît pas du tout, ça ressemble à des possessions », elle le remercie et puis elle va voir quelqu'un d'autre. Et elle va tellement voir quelqu'un d'autre qu'elle va finir par aller voir donc Saint Pierre d'Alcantara, qui est le grand saint de l'Espagne de l'époque, qui est un franciscain qui parcourt l'Espagne pieds nus avec une robe de bure, et Saint François de Borgia, qui est donc le petit-fils du pape, qui a renoncé à tous ses biens. Ce sont deux grands d'Espagne qui ont renoncé à tous leurs biens pour effectivement proclamer l'Évangile. Et ces deux-là vont lui dire que non, elle n'est pas la proie du diable, mais qu'elle est effectivement qu'elle reçoit les dons de Jésus. Et à partir de là, elle va décider, pour éviter les difficultés, elle va décider de quitter ce couvent de l'incarnation à Avila et de fonder un couvent qui reviendra à la première règle, à la règle originale du Carmel, c'est-à-dire pauvreté, ascèse et prière. C'est une de ses petites cousines qui lui soumet l'idée et elle va fonder ce premier couvent en étant, là encore, ça va se faire non sans heurts, en étant effectivement très menacée par la population d'Alivilla qui craint d'avoir encore à donner de l'argent à un nouveau couvent. Il y avait beaucoup de couvents à l'époque, mais elle va fonder ce premier couvent.
Oui, en plus, c'est un peu une folie. Elle décide de faire ça, elle se demande un petit peu ce qu'elle est en train de faire, elle ne sait pas comment elle va trouver de l'argent. Et au final, elle en fondera 17. Comment va s'agencer un petit peu son aventure de fondatrice de monastère et dans le même temps aussi, est-ce que c'est à la même époque qu'elle commence à écrire ses premiers ouvrages? Je crois que c'est justement ses confesseurs qui la poussent à écrire à propos de ses extases, de ses ravissements. Donc, est-ce que les deux sont un petit peu concomitantes? C'est-à-dire le moment où elle va commencer à fonder des monastères et le moment où elle va commencer à écrire.
Alors, effectivement, elle va commencer à écrire...
Elle a 45 ans à peu près,
voilà,
c'est ça.
Absolument. Mmh. Elle va commencer à écrire sa vie dans le livre de la vie à la demande de ses directeurs spirituels parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est une femme exceptionnelle, qu'elle a ce pouvoir d'entraînement et que donc, à des vues d'édification, elle peut convaincre d'autres jeunes femmes de suivre sa voie. Il faut savoir que la royauté, le roi d'Espagne, Philippe II, qui prend le pouvoir, qui donc succède à son père Charles Quint à ce moment-là, a une foi vibrante qu'il vient de faire construire l'Escurial. Et l'Escurial, pourquoi fait-il construire ce château ? Eh bien, pour y attirer toutes les reliques de saints qu'il peut trouver en Espagne, pour faire de l'Espagne ce pays qui va porter haut la gloire et la force du catholicisme. On est en pleine guerre des religions. Donc, un cas comme Thérèse, évidemment, politiquement, ça intéresse beaucoup les Espagnols parce qu'elle va pouvoir être donnée en exemple à toutes ces jeunes femmes. Et l'Espagne rêve à ce moment-là d'être une fabrique de saintes. Donc là, ils en ont une pour de bon, en tout cas une qui en prend bien le chemin. Donc, on va lui faire écrire ce livre. Elle va se heurter, bien évidemment, on l'a dit, à toute une opposition énorme parce que ces couvents coûtent cher, que tous les hommes, comme je vous l'ai dit au début, sont partis, ou beaucoup d'hommes, les jeunes hommes en tout cas, sont partis en Amérique pour gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui sont sans mari et donc qui rentrent dans les ordres et qu'il faut nourrir ces jeunes femmes. Et les bourgeois, les hidalgos et les gens qui ont de l'argent en ont un petit peu assez d'avoir à donner des sous. Il faut savoir qu'à Avila, il devait y avoir à l'époque, je ne vais pas dire une bêtise, mais au moins une quinzaine de couvents au simple monastère de l'incarnation. Elles sont à un moment donné 800 moniales. Donc ce n'était pas une petite chose. Et qu'il fallait nourrir. Et les dots n'y suffisent pas toujours. Donc elle veut monter son couvent, elle veut créer ce couvent où elles vont être très peu, pas plus de 13, va-t-elle dire, en souvenir évidemment des 12 du Christ et de Jésus. Elle veut la plus grande pauvreté et elle va se battre pour une chose. C'est à ce moment-là qu'elle va signer Thérèse de Jésus. Elle va se battre pour renoncer à tout signe extérieur de richesse. Elle va interdire les titres nobiliaires. Elle va chercher un habit, c'est elle qui va mettre au point, on va dire, l'habit des carmélites qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus râpeux et le plus simple possible. C'est dire qu'autrefois, les femmes, les moniales, étaient encore en robe de taffetas avec des broderies, des ors partout. On ne pourra plus y porter ses bijoux. On y sera déchaussé, c'est-à-dire avec de simples sandales ou pieds nus, par contraste avec les carmélites qui sont chaussées, qui sont toujours de mœurs mitigées. Elle va se battre pour qu'il n'y ait pas de dot pour y rentrer. Et elle va vivre 5 années merveilleuses et elle va écrire le livre de sa vie. Et puis, elle apprend que le responsable de l'ordre, ce qu'on appelle le supérieur de l'ordre du Carme, est en visite en Espagne, ce qui n'était jamais arrivé. Et elle a tout à fait conscience qu'il faut que les mœurs des religieux se réforment un peu. Et avec une grande finesse, elle va se débrouiller pour qu'on lui parle de son couvent et qu'il vienne la voir. Et quand il va venir la voir, ce seigneur, le père Rubeo, elle va le persuader qu'il faut imposer une réforme aux carmélites. Et il va être tellement ébloui de ce qu'il voit, de ce colombier d'âme, comme elle dit, qu'il va la charger de faire cette réforme. Alors il faut comprendre l'incroyable révolution que c'est, même pour lui. Et ça, c'est exceptionnel. C'est là qu'on mesure le charme de Thérèse d'Avila et sa puissance d'entraînement, parce que les femmes ne voyageaient pas. Il n'y avait que les femmes de mauvaise vie qui voyageaient. Les femmes n'écrivaient pas. Or, elles étaient considérées comme hérétiques quand elles écrivaient. Il ne pouvait pas y avoir de femmes théologiennes. Donc, elles ne prenaient pas la route. En plus, une religieuse devait observer la clôture. Elle-même l'impose dans ce monastère. Et malgré tout, il lui donne l'ordre d'aller réformer les couvents, simplement en Castille dans un premier temps. Mais comme elle n'a absolument aucun doute, vous savez, sa formule, c'était « ir adelante », aller de l'avant, en avant, avec une détermination déterminante, comme elle le disait. Elle va demander aussi, tant qu'à y être, de réformer les carmes masculins. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer ce jeune homme qui va venir la voir parce qu'il a entendu parler d'elle, qui s'appelle Juan de Yepes et qui va être Jean de la Croix, qui va être le premier à réformer, le premier père supérieur réformateur des ordres des Carmes. Et elle va passer effectivement toutes les dernières années de sa vie à sillonner, on a calculé qu'elle avait parcouru à peu près 8000 kilomètres. 8000 kilomètres, il suffit de lire Cervantes pour se rendre compte de ce que c'était. 8000 kilomètres sur des chemins défoncés en Castille, montagneux, avec des bandes de brigands, avec effectivement les chariots qui crèvent, avec des auberges espagnoles qui, comme le disait la légende, n'ont rien à manger et elles n'ont rien à manger. Avec des disettes, des épidémies, eh bien, rien ne la fait reculer. Elle prend sa voiture, elle arrive dans des villes, elle se débrouille, elle n'a pas d'argent, elle se débrouille pour trouver une maison, elle se débrouille pour ouvrir son monastère de nuit, car comme toujours et comme à Avila, dès qu'on dit qu'il va y avoir un monastère, c'est la bronca générale et ça crée, et vous savez, souvent elle a risqué des coups de bâton. On a essayé de les sortir de la ville manu militari, donc elle risque sa vie, mais rien ne la fait changer d'avis. Elle fonde ses 17 couvents avec quand même un très mauvais moment pour elle, c'est quand elle va fonder ses couvents en Andalousie, où les mœurs étaient tout à fait ramollies, on va dire, par le velouté de l'Andalousie, et où elle va être très très mal accueillie, au point qu'on va l'enfermer, qu'on enfermera aussi Jean de la Croix. Et c'est lors de cette clôture qu'elle va écrire ce livre absolument magnifique qui s'appelle « Le château intérieur », parce que Thérèse, c'est aussi un immense et merveilleux écrivain, et que comme on lui a pris le livre de la vie, l'Inquisition, cette biographie qui pourtant lui a été commandée par ses directeurs spirituels, eh bien, elle va quand même écrire ce précis que c'est l'Inquisition qui l'étudie et qui va sans doute l'interdire. Elle pense qu'elle va être excommuniée à ce moment-là. Elle écrit ce précis qui est une pure merveille, que je conseille à tout le monde de lire. Et je le conseille toujours même à des gens qui ne sont pas spécialement croyants et dans lequel il faut rentrer, je dirais presque comme Alice, quand elle, Alice au Pays des Merveilles, quand elle passe de l'autre côté du miroir, il faut découvrir la spiritualité de Thérèse d'Avila avec le même enchantement et la même porosité d'âme, parce que Thérèse est une immense théologienne qui va découvrir trois choses: la puissance de ce que représente l'incarnation dans le christianisme, ce que ça veut dire. Elle a découvert aussi ce qu'était le centre de l'âme, c'est-à-dire nul besoin de savoir si Dieu est sur l'étoile astrale, bisu, machin chose, ou s'il est au centre de la terre. Dieu est en nous. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu réside au fond de notre âme, dit-elle, dans la septième demeure, la plus profonde, celle qu'il convient, dans laquelle il convient d'entrer le plus intensément possible, en priant et en méditant. Et vous voyez comme elle est moderne, puisqu'on ne compte plus les livres sur la méditation. Et elle va découvrir cette puissance extraordinaire que le paradis et l'enfer, ça n'est pas ailleurs, il est en nous, que étant fait à l'image de Dieu, chaque individu a la possibilité de déployer cette image de Dieu et d'incarner à son tour cet amour comme lui-même s'est incarné en Jésus dans l'amour du prochain. Et c'est le grand fondement à travers l'oraison de la théologie et de la spiritualité de Thérèse d'Avila.
Est-ce qu'on peut parler d'une mystique proprement féminine? Je repense au dictionnaire des femmes mystiques qui est sorti aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, dirigée par Audrey Fellin, et de son introduction où justement elle pose la question d'une mystique féminine, où elle essaie dans éventuellement décrire les différentes caractéristiques à grand trait peut-être, je ne sais pas, une mystique masculine peut-être plus spéculative, une mystique féminine peut-être plus incarnée. Est-ce que c'est réducteur de dire ça? Est-ce qu'on peut faire une différence ou pas?
Non, c'est pas réducteur. Enfin, oui, c'est réducteur de penser qu'il y a une mystique féminine. Je dis c'est réducteur parce que je pense que la mystique féminine est quasiment plus large que la mystique masculine, si l'on en croit Thérèse d'Avila. Pourquoi ? Parce que Thérèse est une femme qui est une très haute mystique, comme je viens de vous l'expliquer, qui va effectivement explorer les mystères du christianisme d'une façon magnifique, et elle va mettre cette mystique en action. De quoi va-t-elle se servir pour atteindre Dieu ? Et de quoi va-t-elle se servir pour irradier cette foi qu'elle a et cet amour ? Eh bien, elle va se servir de son corps. Thérèse d'Avila est une des premières femmes, une des premières religieuses qui va se dresser contre la pratique des flagellations, très en cours en Espagne. Elle va même gronder Jean de la Croix quand elle saura qu'il se fait exploser la chair sous le fouet. Elle ne veut pas ça. Elle veut que le corps, puisque nous sommes, c'est une mystique de l'incarnation, elle veut que le corps participe pleinement à cette rencontre avec Dieu. Notre âme est incarnée. Et elle découvre que la femme est particulièrement incarnée parce que fructueuse, parce que la femme donne la vie. Thérèse d'Avila, c'est le geste fructueux. Elle rappelle à ses moniales que Dieu est aussi entre les marmites, qu'il n'y a pas de petit métier, qu'il n'y a pas de scission entre un monde intellectuel inatteignable et la vie de tous les jours. Elle dit que un hôtel doit être décoré. Elle plante des arbres. Elle s'occupe de son jardin. Le geste de Thérèse d'Avila, c'est le geste de toutes les femmes qui caressent la tête d'un enfant, qui redressent un bouquet, qui se débrouillent pour qu'une table soit bien mise. C'est ce culte de la beauté qu'elle va donner, et en ça, effectivement, qu'elle va donner à tous les gestes quotidiens, et en même temps qu'elle va les rappeler au plus haut. C'est-à-dire, il y a toujours ce colloque et cette familiarité avec le Christ. Justement, ce qu'il y a de magnifique chez Thérèse d'Avila, c'est qu'il n'y a pas de séparation. On a en France la mauvaise habitude de dire toujours, regardez pour les papes, il y a l'intellectuel, et puis il y a le populaire. Regardez ce que fait le pape François aujourd'hui. Il est, en quelque sorte, une figure de Thérèse d'Avila. vis-à-vis-là, parce qu'il est à la fois hautement intellectuel, hautement théologique, hautement mystique, et en même temps, avec cette façon d'aller vers l'autre, d'aller vers son prochain, de l'embrasser, de lui parler, il renoue avec une familiarité, il redonne à la religion une familiarité extraordinaire. Et en ça, la mystique, effectivement, de Thérèse d'Avila est éminemment incarnée, et c'est sa très grande force. Thérèse d'Avila, c'est une oraison amoureuse, une opération amoureuse sur le monde par l'oraison et par sa mystique.
Mais écoutez, je vous remercie énormément, Christiane Rancé.
Je vous remercie d'être venue.
Merci beaucoup.